Donc le 8 novembre 1926, Gramsci est arrêté, hein, ainsi que d'autres députés communistes. Le 9 novembre, tous les députés aventiniens, c'est-à-dire tous les députés, sauf les fascistes et leurs alliés, sont destitués, terminés. Hein. Alors vous vous souvenez, les lois fascistissimes, et il y a un attentat contre Mussolini cette année-là, quelques jours avant le 8 novembre, je ne sais plus si c'est la veille ou deux jours avant, enfin peu importe, par un très jeune homme, par un très jeune homme, où le très jeune homme était là, il a été tué, de toute façon il a été tué tout de suite par les gardes du corps de Benito Mussolini, et donc il s'appelait Matteo Zamboli quand même. Qu'il a été tué à cause de ça, et s'il a essayé de le tuer, c'est encore mieux. Mais voilà. Bon, il ne faut pas dire ça, mais quand même, si. Mais enfin, voilà. Le résultat des courses, c'est pour ça qu'on pense très souvent que ça n'est pas un vrai attentat. En tout cas, il a été utilisé. C'est que, voilà, tous les Aventiniens sont destitués, c'est terminé, etc. Alors, vous savez que la première condamnation, avant qu'il y ait un procès, c'est une condamnation, disons, administrative, qui est confidant di polizia, hein, qui est une assignation à résidence, hein, il confine. Et donc, il est envoyé, et là, il y a une première période, mais qui n'est pas longue du tout, puisqu'elle va durer à peine 2 mois, qu'il est... Il est relégué donc dans l'île d'Ustica avec où il est avec d'autres confinati, hein, relégués communistes, dont Gottlieb Amadeo Bordi. Et alors on vous l'a déjà dit parce qu'on trouve ce moment là, c'est plutôt ça va, ils s'entendent entre eux, ils jouent aux cartes, ils ont fait une petite bibliothèque. Ils font une petite école du parti, et lui, il s'occupe de la partie littéraire. C'est comme à l'ENS, il y a une partie littéraire, une partie scientifique. C'est Bordi qui s'en occupe, puisqu'il est ingénieur. Hein. Voilà. Il l'ouvre aussi aux habitants de l'île, etc. Enfin, voilà, ça se passe plutôt bien. Les lettres de l'époque sont plutôt, je ne vais pas dire enthousiastes, mais vous avez vu, détendu, hein, c'est toutes ces premières lettres où il dit, voilà, non, mais ça va aller, tout ça, enfin, pendant tout un temps, ça va. Hein, vous avez toutes ces lettres où il dit, il parle de son spirituel en sarcastico, hein, qui regarde la vie comme ça, avec l'aide de ce spirituel, hein, qui fait que, voilà, il a des raisons de s'amuser, etc. On sent là, dans toute cette première partie, là, on sent une très grande force dont on va voir, tu vois, elle demeure, mais en même temps, en étant très, très remise en question par les conditions de prison et les conditions de santé. Hein, voilà. Alors, il y reste jusqu'au donc, du 7 décembre 1927 au 20 janvier 1928. Hein, d'accord. Donc, voilà. Donc, première prison, Rome, Regina Coeli, après la relégation à l'île d'Ustica, après Milan. Milan, il arrive à Milan et il va être là...
C'est 26-27.
Hein. Ah. Oui, j'ai un problème de date.
Il y a un problème de date, c'est ouais. En fait... Il faudrait qu'on corrige ça. C'est du 7 décembre 26,
c'est du 7 décembre,
au
26 janvier, au 20
janvier 27.
Merde. Donc il voilà, faut vraiment qu'on fasse corriger ça dans le texte. Ouais. Donc il est à Ustica du 7 décembre 26 au 20 janvier 28.
27.
Au 20 janvier 27. Voilà. Ah ouais, c'est tout, ça a tout bougé dans
ouais, non, ça, non, ça, ouais, ouais. Pareil pour le mandat d'arrêt, c'est le mandat d'arrêt, c'est pas en 28, c'est en 27. 14 janvier 27 après.
Putain, mais c'est tout faux, ce truc, ouais. C'est incroyable. J'ai tout mis les trucs avec une
date. En revanche, après, c'est parce que le procès en 28.
C'est le procès en 28, c'est ça.
Procès,
ça. Ouais, ouais, d'accord. Alors, on redonne juste les dates pour qu'il n'y ait pas de... Arrestation, 8 novembre, 26. 7 décembre, 26, Oustica. 20 janvier, 27, il part de Oustica et il est transféré à San Vittore, à Milan. Alors là, il y a déjà des lettres, hein, la lettre du 12 février 27, qui raconte la traduzione ordinaria, qui dure 20 jours. Quoi, de, voilà, hein, et c'est
tout sauf ordinaire. Mais...
voilà, c'est l'extraordinaria, c'est celle où éventuellement on ne fait pas arrêter tous les jours. Quoi, mais là, tu es donc attaché à une part des chaînes, aux autres, etc. Voilà. Le récit est très détaillé là, dans la lettre du 12 février 27, mais on voit comment ça peut être dur, c'est vraiment quelque chose de violent, quoi, comme énorme, comme fatigue et comme souffrance. Alors, donc, il est un des accusés du groupe dirigeant du Parti communiste d'Italie, qui va passer, et ça sera les premiers à passer, devant le tribunal spécial pour la défense de l'État qui a été mis en place dans le cadre des lois ultra-fascistes, hein, les leggi fascistissime. Voilà. Donc, le procès est instruit par le tribunal militaire de Milan et il va se tenir à Rome du 28 mai au 4 juin 1928. Alors, ils sont tous condamnés à des peines assez lourdes. Hein. Celui qui a le plus, c'est Terracini, un tout petit peu plus. Mais enfin, c'est autour de 20 ans. Quoi. Alors, il y a cette phrase qu'on dit, on ne sait pas si elle est exactement dans cette teneur-là, mais enfin, la teneur, dans la formulation qu'on connaît, mais en tout cas, la teneur ne saurait nous échapper, en gros, per vent'anni.
Et les actes du procès, c'est...
Oui, bon, enfin bon. Per vent'anni dobbiamo impedire questo cervello di funzionare. Procureur, au moment de la réquisition. Le procureur qui s'appelle Michele Isgro. Donc il est condamné à 20 ans, 4 mois et 5 jours. Attività cospirativa, instigazione alla guerra civile, apologia di reato. E incitamento all'odio di classe. Donc voilà. 4 juin, donc là il est transféré après des débats, savoir où il doit aller, etc. Où on doit l'emmener, parce qu'on sait que comme il est malade, il doit être dans un endroit avec des conditions un peu spéciales. Donc il est envoyé à la Casa Penale Speciale di Turi. Donc qui est dans la province de Bari, où il arrive le 19 juillet 1928, et où il est donc le matricule 70-47. Les lecteurs de Elsa Morant auront reconnu l'exergue final, enfin la citation finale de la storia, non? Personne n'a lu la story, non? Non, si.
Jusqu'où?
Jusqu'à la fin.
Jusqu'à
la fin. Ou alors, avoir commencé par la fin. Ça commence par une citation d'une lettre du matricule 70-47. Il n'y a pas marqué Antonio Gramsci. Évidemment, les lecteurs de l'époque comprenaient tous que c'était Gramsci. Maintenant, vous comprendrez. Et c'est la citation où il dit Isemi hanno cominciato a dare. Non so che fiore sarà, ma sicuramente non è un'erbaccia. Voilà, c'est la fin de... Voilà, c'est la fin. On espère que ça ne sera pas une mauvaise herbe. Hein. Et c'était aussi ce qu'espérait Elsa Morant en écrivant ce livre. Ouais. Donc voilà. Hein. Donc il va rester là... jusqu'au moment où il est transféré, donc, comme vous le savez, dans une première clinique, puis dans une deuxième. Alors, l'histoire de ça, c'est évidemment le moment pour nous, mais pour lui aussi, parce qu'il a vraiment cette envie et ce besoin d'écrire autre chose qu'une lettre, tous les 15 jours, parce qu'au début, c'est la seule chose qu'il peut écrire, une lettre tous les 15 jours. Et il obtient, en janvier 29, le droit d'écrire en prison. Il a obtenu, entre-temps, de ne pas être dans une chambrée, mais d'être dans une cellule individuelle qui pose des problèmes, parce qu'elle est dans un endroit très bruyant la nuit, etc., qui fait qu'il est réveillé, tout ça, tout le temps. Et voilà. Mais enfin, il obtient ça, et donc, il peut commencer à écrire le 8 février 1929. Et vous savez que cahier 1, il a mis la date, il a mis une liste de choses sur lesquelles il compte écrire. Donc il va écrire du 8 février 29 à juin 1935, et son histoire à partir pendant ces années-là, et celle de ses écrits. D'un côté, réflexion et écrit, essentiellement des écrits. On a quelques retours par les gens qui l'ont vu, mais ce n'est pas beaucoup de gens. C'est Tania Schucht, sa belle-sœur. C'est Zraf, vers la fin. Et c'est son frère, Gennaro. C'est à peu près tout. Deux personnes qui l'ont vu. Bon, c'est des moments importants quand il les voit. Il y a des traces de ces rencontres et des discussions dans les lettres, mais évidemment, et dans les lettres et dans les cahiers, il y a le problème de, et en particulier dans les lettres, de ce qu'il appelle sa pudeur à dire un certain nombre de choses quand il sait que ça va être lu par des gens qui ne sont pas les destinataires, mais qui sont les censeurs, les gardes de la prison. Alors, la deuxième histoire qu'on a besoin de faire un tout petit peu pour savoir les conditions physiques, parce qu'elle joue sur les modalités d'écriture, etc., c'est des aggravations de sa condition physique marquées par des crises qui le laissent sur le carreau pendant plusieurs semaines parfois, et qui influe sur sa capacité de travail. Donc les grandes crises qui connaît les maladies, c'est celle d'août 31, c'est celle de mars 33. À partir de cette dernière, il va obtenir un transfert dans une clinique de Formia, à partir de décembre 33, c'est la clinique du docteur Kuzumano à Formia. Alors, sa situation est tellement clairement mauvaise qu'il obtient, pour des raisons médicales, une phase de liberté conditionnelle qui commence en fin octobre 34, et qui va se terminer quelques jours avant sa mort. C'est-à-dire qu'en fait, il est en liberté conditionnelle jusqu'au 21 avril 1937. Voilà. Et il meurt le 27 avril 1937. Là, liberté conditionnelle, mais il a 11 carabiniers 11 carabiniers mobilisés par jour pour le garder, quoi. Donc, comme liberté conditionnelle, c'est léger, quoi. Voilà. La troisième grosse crise qui est là met fin à sa capacité de travail, c'est-à-dire à partir de cette date-là, qui est juin 1935, là, il ne travaille plus au cahier. Il envoie des lettres à ses proches, etc. c'est-à-dire enfin, essentiellement à Tagne, comme d'habitude, et à sa famille en Sardaigne. Mais très souvent, en passant même par Tagne, même pour ça. Donc là, vraiment, 8 février 29, juin 35, c'est la période de travail, période d'élaboration. Donc il y a toute une série de choses qui sont commencées, qui ne vont pas jusqu'au bout. Donc on n'a pas, on peut être sûr d'aucun achèvement. C'est un processus de pensée qui est arrêté par la maladie. Hein ? C'est pas un processus de pensée qu'il a arrêté lui en pensant qu'il était arrivé à un stade où il pouvait arrêter. Hein ? Au contraire, enfin, très visiblement non, au contraire. Hein, que c'est vraiment, c'était vraiment une continuation, un travail en train de continuer qu'il a arrêté par la crise. La dernière crise de juin 35, après quoi il est transféré là, et là il est à peu près dans des conditions effectivement de liberté conditionnelle. C'est vrai qu'il n'a pas, il a pas de la police tout autour de sa chambre, et, mais voilà. Et donc il est transféré à Rome, à la clinique, au joli nom de Qui Si Saana, voilà, où il meurt. Il meurt libre, hein, là, les fascistes, on dirait. Il était libre. Il était libre. Il a été mis en pleine liberté. Là, il est le 21 avril. Et Tagne raconte dans la dernière lettre, dans une lettre qu'elle écrit à Zlaff, hein, qu'elle lui a amené le libretto où c'était marqué que ça y était, il était libre. Voilà. Donc, et il meurt le 27 avril 1937. Bon, alors. Juste un point sur le maintien de l'activité politique en prison. Enfin, le maintien de l'activité politique, c'est évidemment les liens indirects, mais permanents, par l'intermédiaire de Tania Schust et de Zlaff. Donc, Tania Schust étant en correspondance avec Zlaff, et Zlaff étant en correspondance avec le parti italien en exil. Bon, on reprendra ça de façon plus détaillée la prochaine fois, hein, mais voilà. Donc, il maintient une activité politique. Et il y a toute une série de choses où c'est clairement Zlaff lui dit, mais ça serait, enfin, fait écrire par Tagne à Gramsci, tu pourrais pas nous écrire 50 pages là, ce que tu nous as dit sur les intellectuels, voilà. Hein, donc on voit la lettre, nous, on voit la lettre de réponse de Gramsci dans l'anthologie, vous voyez la lettre de réponse de Gramsci, mais il y a un processus qui est une lettre de Zlaff qui écrit à Tagne, qui écrit à Ninon. Et Ninon répond, il dit, ouais, non, mais c'est compliqué, j'ai pas de bibliothèque. Alors, ça repart, il dit qu'il a pas de bibliothèque, Zlaff. Et je veux dire, tu dis à Ninon qu'il me reprochait toujours de pas rédiger les livres que je devais faire, etc. Zlaff, il a fait l'œuvre de sa vie, c'est les éditions complètes de Ricardo. Je fais un geste très très large pour indiquer un nombre énorme de volumes, l'édition critique des œuvres économiques, enfin de toutes les œuvres de Ricardo. Donc, il répond à Tagne, écoute, dis-lui que malgré tout, il est gonflé parce que moi, il me disait, tu fais jamais les trucs, tu t'écris pas, etc. Et lui, il n'écrirait pas 50 pages. Dis-lui de faire 50 pages et s'il ne peut pas, 10. Et là, bon. Et alors, très probablement, enfin c'est un point qu'on abordera, très probablement, il a à un moment donné l'idée d'écrire un cahier qu'il essaierait de faire sortir. Voilà. Qui aurait été probablement cahier 8. Non, voilà. Mais bon, il ne peut pas, de toute façon, il n'arrive même pas, il ne peut même pas faire sortir les fables des Grimm qu'il a écrites et qu'il espérait pouvoir faire envoyer à ses petits neveux en Sardaigne. Voilà. Alors, il y aurait. En tout cas, En tout cas, il y a ce lien, hein, Zraf, Tania et le PTD derrière. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'à l'intérieur de la prison, il y a un collectif du parti. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de communistes se réunit en marchant pendant qu'il y a la promenade, etc. Ils se réunissent et ils discutent. Hein, ils se discutent. Ils discutent aussi, ils convainquent deux jeunes anarchistes. Ils ne convainquent pas, puisqu'ils rencontrent Pertini, qui est à ce moment-là un jeune socialiste. Pertini passe à tout. Il y a un truc de Pertini qui dit, effectivement, il m'a dit, tu vois, je lui dis, mais moi, je suis socialiste, je ne compte pas devenir communiste. Et il dit dans son témoignage qu'en gros, voilà, ça n'a pas changé, un rapport très, très amical entre lui et Gramsci. Hein, chose que je vous ai dit à plusieurs reprises, mais c'est tellement violent les rapports dans. Je ne parle pas de rapport, la violence, le rapport avec les fascistes, je parle de rapport à l'intérieur du camp antifasciste, c'est tellement violent et c'est brutal que quand on tombe sur quelqu'un qui ne l'est pas, il faut le souligner parce que le. Hein, donc c'est pour ça que je vous parle. Ça va faire 10 fois, il parle des parties de cartes avec Amader, hein, ou bien de cette rencontre avec Pertini. Voilà. Alors, il se passe une chose importante là, qui a été vécue difficilement par Gramsci dans la prison, c'est que il y a un tournant, hein, alors là, le grand tournant, disait le camarade Joseph Dugashvili, dit Staline, le grand tournant qui est, on arrête tous ces trucs comme l'alliance avec les sociodémocrates que permettait le Front Unique, hein, comme la NEP, donc les nouveautés dans l'économie, en particulier dans les campagnes, qui permettaient l'alliance avec les paysans, et même avec les paysans moyens, et même avec une partie des paysans riches, et l'international décide au 6e congrès de juillet 1928 de rompre avec toutes ces vieilleries droitières. Et donc, fin de la NEP, collectivisation forcée des campagnes, les sociodémocrates sont des sociofascistes, et c'est bon, ça ne change rien d'avoir des sociodémocrates ou d'avoir des fascistes ou. Des nationalistes, etc. C'est pareil. Voilà. Et évidemment, pour la ligne italienne, toute la politique du PCD et les thèses du Congrès de Lyon sont reliées en bloc, puisqu'évidemment, elles appliquaient la ligne d'avant. Donc, si tu appliques la ligne d'avant, tu es toujours en retard d'une guerre dans l'international communiste. Donc, tu es mal barré. Ouais. Alors, le tournant a lieu en juillet 28, hein, le temps que ça arrive vraiment dans les prisons, machin, etc. Gramsci estime, lui, que c'est pas une bonne idée, hein, c'est pas une bonne idée, et qu'il continue à dire à ses amis que lui, il est resté sur la ligne du Front Unique, parce que c'est ça la ligne léniniste, voilà, et que pour l'Italie, la ligne qu'il va falloir défendre, à son avis, est une ligne de Front Unique réunissant toutes les forces antifascistes et promouvant une constituante. Hein, voilà. Et donc, l'hypothèse qu'il défend dans ces débats-là, dans la prison, dans le collectif de la prison, c'est qu'il va falloir envisager une période transitoire démocratique pour mener la lutte contre le fascisme. Et sans doute aussi après, une fois que le fait. Mais en tout cas, là, dans les conditions où on est maintenant, pour mener la lutte contre le fascisme, il va falloir cette phase de cette phase transitoire démocratique et de front unique. Hein. Il maintient, il en parle encore à la toute fin de sa vie, dans des entretiens à la Forum Yakoussissan avec Zrafa, où il demandera à Zrafa de faire connaître cette position à la direction du Parti communiste. Alors à ce moment-là, on est l'international aura de nouveau changé et sera sur la ligne des fronts populaires, donc on pourra plus facilement entendre ça. Hein. Mais il faut le nazisme pour qu'il décide de changer. C'est-à-dire que la ligne de l'international, la ligne du congrès de 1928, hein, cette ligne contre fascisme ou social-démocratie, c'est pareil, elle amène la victoire du nazisme en Allemagne. Hein. L'Allemagne, la victoire du nazisme en Allemagne. Et donc, jusqu'à la fin de sa vie, il va maintenir cette position sur la nécessité d'une constituante et d'un combat démocratique. Hein. Et donc, les tout derniers entretiens, il demande à Zrafa de faire savoir ça. Alors, quand il est à Turi, qui défend ça, en gros, il est assez rapidement, il est assez isolé parmi ses camarades. Voilà. Il est assez isolé. Il y a les deux jeunes anarchistes qu'il a convaincus. Hein, voilà. Mais les vrais cocos qu'il y a dedans, qui évidemment sont des gens qui ont dit la discipline, c'est la force du parti. Bon, donc, si c'est ça la ligne du parti, c'est la ligne de l'international, et donc la ligne de notre parti à l'extérieur, il faut appliquer et puis terminer. Je veux dire, voilà. Et donc, ils vont jusqu'à, et là c'est quand même jusqu'à faire envoyer au centre-ouest du Pichidi à l'occasion, parce qu'évidemment il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent, etc. Donc, ils arrivent à faire sortir une lettre pour dire que là ils sont assez inquiets parce que ils estiment que le compagne au Gramsci se met en dehors du Parti communiste. Sont la majorité du... C'est une lettre signée par les autres communistes, sauf deux. Sauf deux. Mais de toute façon, les deux qui signent pas, les autres les considèrent pas comme des vrais communistes, puisque... C'est des ralliés de la dernière heure. Sauf deux, et Gramsci, évidemment. Mais. Alors, bon. En gros, c'est enterré par la... On va pas rentrer dans le détail de ça, mais en gros, c'est enterré... Et en particulier, il y a une très sage décision de Palmiro Togliatti qui fait décider à la direction du PCD qu'un collectif dans une prison, que c'est bien qu'il y ait un groupe de communistes dans une prison, que c'est un collectif, mais que ce n'est pas une cellule du parti, ce qui empêche que les mecs de Turi virent exclus, parce qu'une cellule peut exclure. Après, tu peux faire appel à une instance plus élevée. Non, c'est surprenant, hein. C'est un autre monde. Hein. Mais là, comme c'est pas une cellule, ils peuvent pas le virer. Ouais. Alors, ça dure quand même un certain temps, cette histoire-là. Mais bon, disons, 30-31, quoi. Hein. Mais bon, après... en gros, c'est ça.
31-32...
Hein. Ça va jusqu'en 32, ouais, tu penses?
Mais en fait, parce que après, tu as les témoignages des...
Ils sont en 33.
Les témoignages des militants eux-mêmes sont que... Évidemment, eux, ils se défendent, mais il faut les entendre aussi. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, c'est... Gramsci n'a pas compris. On n'a pas voulu l'exclure. Mais on n'était absolument pas d'accord. Et donc, il y a une sombre histoire de lettres, de papiers, etc. Gramsci ne supporte pas ne supporte pas ce qui est en train de se passer et aurait refusé, mais alors ça c'est recoupé, y compris par les non-communistes, dont Pertini, refuse de leur parler pendant longtemps, pendant quasiment 2 ans, 1 an et demi. Donc les moments de crise intense dans les lettres aussi sont des moments de crise qui sont une vraie crise politique par rapport aux camarades. Voilà. Et puis après, les choses se recomposent un peu plus tard.
Ouais. Voilà. De toute façon.
Mais c'est pour lui, c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. Et alors se greffe à ça un autre phénomène qui est que donc ils sont tous ensemble dans à Tours. Il y a 3 grandes parties de la prison, et une de ces 3 grandes parties, donc, ce qui est commun à toute la prison, c'est que c'est une prison spéciale pour prisonniers malades, donc ils ont tous un peu des problèmes de santé hein, quand ils sont à Tours. Mais il y a une partie de la prison, qui est celle où ils se trouvent tous, qui est la partie politique, qui est clairement politique, parce que l'enjeu, c'est évidemment surtout que les politiques, avant tout les communistes, qui sont la très grande majorité, et puis quelques anarchistes et de rares socialistes, quoi, que ces gens-là ne contaminent pas idéologiquement les prisonniers de droit commun. Donc en fait, ils sont tout le temps ensemble. Et dès qu'ils sortent et dès qu'ils sont dans la cour, etc., ils organisent ces réunions qui, de nouveau, sont comme une école de parti où... Alors là, ils le décrivent tous, hein, ils le disent tous, où Gramsci est au milieu et tout le monde l'écoute et discute avec lui. Et c'est dans ce cadre-là où les choses s'enveniment. Et c'est d'ailleurs au point que la direction de la prison interdit pendant un certain temps ces types de réunions. On essaye de les empêcher vraiment de se discuter tous ensemble. Ouais. Et alors ce que peut-être pour compléter, mais
tu fais Athos Liza, ouais.
Tu aurais fait Athos Liza, et peut-être après je lirai quelques passages des témoignages de tous ceux qui ont été dans la prison avec lui.
Alors, ce qui met fin au débat avec le centre PC à l'étranger, c'est en gros, à un moment donné, il demande à une des personnes qui avait été prisonnier à Tours et en même temps que Gramsci, et qui était un des signataires de la lettre pour dire compagne Antonio Gramsci n'est plus dans le parti, qui s'appelait Athos Liza. Ses parents lisaient Alexandre Dumas. Hein. Ses parents avaient lu les 3 mousquetaires. Et donc, on lui demande de faire un rapport. Il fait un rapport qui est publié en annexe dans le très important livre de correspondance entre Tatiana Schust et Gramsci, qui est vraiment, bon, évidemment, le jury ne pouvait pas mettre un truc comme ça. Ça fait 1000 pages, mais c'est vraiment parce qu'on a au moins tous les échanges entre Tania et Nine, hein, et c'est vraiment un instrument de travail énorme. Enfin bon, vous n'avez pas à rentrer dans ce type de détails, mais c'est sûr que pour certaines des lettres, c'est utile d'avoir la lettre à laquelle on répond ou la lettre qui va répondre. Hein. Par exemple, toutes ces lettres que vous avez vues là sur les deux mondes et sur les juifs, c'est vraiment un vrai débat extrêmement intéressant entre Tania, qui se laisse, pour une fois, ne se laisse pas faire, et donne des arguments, et qui est des arguments tout à fait forts et recevables, enfin, voilà, sur la question de la spécificité d'une identité juive, que vous avez eu, lui. Il ne comprend pas du tout. Il dire ça, c'est être du côté des antisémites. Hein, alors qu'évidemment, c'est tout autre chose que lui dit Tania. Bon, je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple où avoir l'ensemble de la correspondance et pas seulement des lettres qu'il envoie lui est un moment important. Alors, Athos, il est là, il écrit, et donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Et là, ça veut dire que c'est vraiment fini là, à ce moment-là, mais c'est aussi un moment où voilà, Gramsci va partir à Kuzuma, dans la clinique de Kuzuma, à Forme, etc. En gros, il dit, oui, il y a bien eu des problèmes, Alors, il y a des problèmes sur Alcuni, il disait, alcune discussioni politiche vertenti sull'analisi del fascismo, sulla tattica del partito, eccetera, alimentarono in seguito i dissensi. Sorse così l'idea di denunciare la cosa al partito. Alors, vous voyez bien, bon, il explique. Voilà. Il y a eu des premiers problèmes qui étaient des choses, voilà, des trucs qui arrivent en prison parce que la vie est difficile, etc. Hein? Alors, il a une expression pour dire ça. Il dit « abbiamo drammatizzato delle pichate ». Voilà, hein, des trucs sans importance. Mais ces trucs sans importance, évidemment, cachaient des vraies divergences politiques, des vraies analyses différentes de la situation politique. Hein. Là, tout va bien, à la fin, tout le monde s'est mis d'accord, il n'y en a qu'un, mais c'était un excité, etc. Voilà. Hein. Donc le rapport, c'est, voilà, fin. Il n'y a pas eu d'histoire, en fait. On s'est monté la tête les uns et les autres. Le compagno Gramsci a plus voulu nous parler. Nous, on a pensé qu'il était arrogant. On lui disait qu'il était plus communiste. Alors, il n'était pas content avec nous. Enfin bon, voilà. Mais c'est rien. Abbiamo, hein. Et il dit, vi fu fra noi un riconoscimento reciproco di avere drammatizzato delle pichate. Voilà. Sauf un qui continue à les dramatiser, les autres sont d'accord pour dire il n'y a plus rien à voir dans cette affaire. Voilà. Hein? Ce moment-là des années 30, 30, 31, 32, c'est tout le moment, entre autres, où il va penser que voilà, il faut développer une guerre d'opposition. Et que c'est pas le moment de mener une guerre de mouvement, c'est-à-dire c'est pas le moment d'envisager la révolution comme une insurrection généralisée, comme un passage immédiat à la dictature du prolétariat, et c'est pas le moment de penser que le fascisme est faible et que c'est le moment où on va pouvoir, parce que je veux dire, c'est ça que ça dit, hein, les thèses du 6e congrès, hein. Donc là, 6e congrès, il va durer quand même. Les thèses du 6e congrès vont rester en vigueur, hein, de juillet 28 jusqu'en juillet 35. Hein. Donc ça fait des années quand même. Et il n'y a qu'en juillet 35 qu'au 7e congrès de l'Internationale communiste, se rendant compte des résultats pour le moins catastrophiques. Non, mais je veux dire, c'est quand même une victoire du nazisme. Ils ont Front populaire. Et sur la base de réactions, déjà, les réactions étant en particulier, vous savez, la réaction française de février 34 aux manifestations des Ligues quelques jours avant, la grande manifestation Unité, Unité, hein, qui est la réponse. Où les deux cortèges, celui de la SFIO et celui de la section française de l'Internationale communiste, fusionnent en un seul cortège qui n'a qu'un mot d'ordre, qui sera celui des fronts populaires, unité. Avec l'idée que c'est la seule défense contre le fascisme. C'est une des raisons. Il y a une chose un peu semblable en Autriche, à peu près à la même date. Hein, et c'est ça qui amène à la ligne dite des fronts populaires, mais qui est donc sur la base des résultats catastrophiques de la ligne d'avant et d'un mouvement qui est né des masses. Quoi. Voilà, tu donnes quelques exemples de...
Oui. Alors, c'est tiré d'un livre qui est souvent cité dans tous les textes biographiques, hein, sur Gramsci, intitulé Cioè, les Gramsci vivono nelle testimonianze dei suoi contemporanei e qui rassemble des témoignages qui ont été faits entre la fin des années 60 et le début des années 70. Et alors, il y a une section qui n'est pas la plus nourrie sur la prison, qui est la dernière, évidemment, et où on a un peu l'écho de tout ce dont on a parlé là. Et certains témoignages, enfin, certains passages sont vraiment intéressants. Alors, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Umberto Clementi, qui était un jeune artiste, sculpteur, militant au Parti communiste, et puis qui est toujours resté communiste, et qui est d'ailleurs celui qui a sculpté ensuite, après-guerre, la sculpture de Gramsci, qui s'est toujours trouvée à l'entrée du siège du PCI, disait... Alors, il reprend, alors il attribue, c'est du discours direct, hein, donc c'est le discours de Gramsci, hein, donc il dit, voilà, « Ricordo che insisteva nel dire, la borghesia italiana non ha compiuto il suo ciclo, come invece in tanti paesi è avvenuto. C'è ancora una parte sana, specie nella piccola borghesia, e questa che non è compromessa e che ha delle posizioni da rivendicare, assumerà delle posizioni che non saranno molto lontane dalle nostre e che per noi serviranno come anello di congiunzione. E ça, vous voyez, c'est des choses qui sont, là encore, parfaitement dans la suite de ce qu'il dit dans le texte sur la question méridionale. La petite bourgeoisie italienne est telle que, alors même si elle a été, il y a quand même ça derrière, hein, même si il y a un appui populaire qui vient de cette partie-là de la population, qui est très claire, au fascisme, en réalité, il y a un travail qui peut être fait pour reconquérir. Alors Clément dit, bon, « Ricordo che molti di noi e Dio ero tra questi. » Donc, tra questi, qui s'opposait, quoi, hein, replicavano, ma come? Quando butteremo giù il fascismo, non prenderemo il potere? E Gramsci répond, no, rispondeva Gramsci, è assurdo, perché non abbiamo storicamente le forze per prendere il potere in Italia. Noi, c'est nous, le Parti communiste, hein, les 4-5 mecs qui se trouvent assez mal en point. Dans quelques prisons italiennes, quoi. Hein? Abbiamo le forze. Noi sapremo esercitare una funzione di governo una volta caduta il fascismo, se prima della sua caduta avremo saputo svolgere un'azione di avanguardia in mezzo alle masse sane del nostro paese. Per cui soltanto l'unione di queste forze, di queste masse, potrà abbattere il fascismo. Et vous voyez que là encore, c'est une retraduction, col senno di poi sans doute, hein, d'un militant communiste, en quelques mots, de quelque chose qui dit le travail sur la question de l'hégémonie. Il est là, quoi. Hein, il est dans cette azione di avanguardia. Là encore, phraséologie très typique, mais qui, chez Gramsci, signifie... quelque chose qui est de l'ordre de l'hégémonie. Alors, sur l'Assemblée, la Costituante aussi, ça c'est quelque chose qui revient tout le temps et qui était fondamental et qui apparaît dans le discours, qui apparaîtrait dans le discours de Gramsci à partir de novembre 1930. Hein. C'est aujourd'hui, les historiens ont l'air d'accord là-dessus, c'est les témoignages concordent. C'est intéressant, novembre 1930, parce que c'est un moment, octobre, novembre, décembre 1930, c'est un moment où, c'est le moment où la réflexion théorique de Gramsci dans les cahiers connaît un palier incroyable, à la fois quantitatif et, qualitatif. C'est-à-dire que dans ces mois-là, la toute fin de l'année 1930, qui sont les mois où il parle de la Constituante, qui sont les mois où se cristallise le conflit, et bien ce sont aussi, avec les camarades en prison, ce sont aussi les mois où tout ce qu'on va retrouver ensuite réorganisé dans les cahiers spéciaux de 32, qui sont ceux que vous avez au programme, et bien tous ces éléments théoriques-là se mettent en place. Hein. Et donc la question de la guerre de position, on l'a dit, la question de l'hégémonie, bien sûr, la réflexion sur les cahiers philosophiques, quoi, les cahiers, les parties des cahiers 4, 7 et 8, hein, qui vont se retrouver ensuite dans les cahiers 10 et 11. Voilà, tout ça se cristallise à ce moment-là. Et donc, voilà, donc un autre militant, là encore, quelqu'un qui était jeune, hein, qui était plus jeune que Gramsci, Giovanni Lai, qui est resté communiste toute sa vie ensuite, hein, militant, militant communiste jusque dans les années 70. Donc quelqu'un né en 1905, donc on voit à ce moment-là, il avait 25 ans, hein, raconte ceci. Donc, fu nel corso di queste conversazioni che espose, Gramsci espose, l'idea dell'assemblea costituente. La convocazione di un'assemblea costituente come parola d'ordine capace di creare le basi per una lotta unitaria della maggioranza degli italiani contro il fascismo. Donc, précisément au moment où d'en haut et de partout, de tous les partis communistes, tous les partis communistes qui relaient le mot d'ordre de l'Internationale communiste, le mot d'ordre, c'est le mot d'ordre du social-fascisme. Lui, il dit non, c'est exactement le contraire, c'est l'Assemblée constituante. Assemblée constituante, ça veut dire que non seulement on va se mettre avec les sociodémocrates, les socialistes, les réformistes, tous les sociotraîtres, là. Hein, mais on va même se mettre avec des conservateurs antifascistes. Hein, on va même se mettre avec les... Ah, quelque chose de... absolument monstrueux pour eux, à ce moment. Si tratterà di un pugno nell'occhio, disse. E non era solo una battuta. Con questa espressione intendeva forse sottolineare il grande valore politico dell'idea e anche prospettare ai compagni le immancabili reazioni delle forze politiche italiane di fronte alla proposta di una costituente avanzata dai comunisti. Parlò a lungo del Partito Nuovo, un partito capace di portare avanti la linea del rinnovamento politico, morale e culturale della società italiana, capace di realizzare le necessarie alleanze politiche e sociali, un partito con la forza, la capacità e la volontà di intervenire nella vita nazionale come elemento determinante, un partito della classe operaia, sempre consapevole della funzione della classe, ma anche grande forza nazionale, attento ai problemi irrisolti della società italiana, al mezzogiorno, alla questione dei contadini. Un partito che contemporaneamente sappia mantenere i suoi legami col movimento internazionale. Sulle tesi esposte da Gramsci discutemmo molto e con impegno e non mancarono posizioni contrastanti fra i compagni del nostro gruppo. Certo, quello fu il periodo più interessante della nostra vita con Gramsci e credo non solo per me, ma fu anche la fine di ogni conversazione organica e sistematica. La direzione del carcere intervenne bruscamente informando che gli assembramenti non erano consentiti, che, a norma di regolamento, durante il periodo dell'aria dei cortili all'uopo destinati, i detenuti dovevano camminare in silenzio, ognuno per proprio conto, o stare seduti sui sedili, ma evitando la formazione dei gruppi. Donc là on a un témoignage de quelqu'un qui dit oui, il y a eu une opposition, il y a eu des désaccords, mais en gros, si tout a dû s'arrêter, c'est surtout parce que c'est la direction de la prison qui l'a voulu. Alors, à savoir si voilà, il protège propre groupe dont il faisait partie, ou il, voilà, il réécrit l'histoire. En tout cas, c'est intéressant d'avoir les différents points de vue, quoi. Alors, un autre, là encore, tout le témoignage de Pertigny est évidemment super intéressant. Et parce que c'est le témoignage du socialiste qui dit « Allora, per i comunisti, noi socialisti eravamo dei socialfascisti. » Entre guillemets, bien sûr. « Non per Gramsci, perché egli prevedeva che un giorno vi sarebbe stata un'alleanza tra i socialisti, i comunisti e tutte le forze antifasciste. E riteneva fosse un grave errore quello di certi suoi compagni che ancora persistevano su questa posizione nei nostri confronti. A Turi di Bari io ero l'unico socialista tra i detenuti. Ecco perché Gramsci, così sensibile umanamente, dimostrò questa attenzione verso di me. Io ero solo, mentre erano molti comunisti, Riboldi, Lo Sardo, Lisa, Laito, Sintulli, Scucchia, eccetera. Il insiste beaucoup sur le fait que, comme les autres, les anarchistes, ils disent « mais tous les communistes nous traitaient comme de la racaille, il n'y en avait qu'un qui nous respectait, c'était Gramsci. » Alors, encore, puis c'est la dernière, assez courte, un autre, Angelo Scucchia, qui a été un des plus radicaux contre Gramsci, semble-t-il, à ce moment-là, dans lui, communiste ad hoc. Alors, il dit, il répète ça, hein, Gramsci insisteva invece sulla fase intermedia. Parce que nous, on partageait entièrement le mot d'ordre, l'hypothèse de ce moment-là, qui était l'hypothèse extrême, solution révolutionnaire et très prochaine des fêtes du fascisme. C'était ça. L'idée, c'est l'analyse du rapport de force fait que, surtout à partir de 29, il y a la crise de 29 aussi, faut se souvenir qu'il y a la crise de 29, 29-30. Donc, ils commencent déjà à dire ça à Moscou dès 28. Et alors, la crise de 29, ils disent, regardez, vous voyez la preuve, là, c'est le capitalisme qui est en train de s'effondrer. D'un jour à l'autre, on prend les armes et c'est fini, quoi. Gramsci, invece, insisteva sulla fase intermedia, cioè un periodo di libertà borghesi in cui, come partito della classe operaia, dovevamo svolgere subito un ruolo inserendoci attivamente. E questa era l'indicazione che ci dava per il nostro lavoro nel partito e tra le masse che avremmo dovuto svolgere uscendo dal carcere. Preparare le condizioni per la fase intermedia. Perché alla differenza di Gramsci, ils n'étaient pas tous condamnés a 20 ans. Certains restaient un certain temps e avevano la perspective di ressortir assez rapidement. Noi però non vedevamo questa possibilità e ribadivamo. Siamo stati l'unica forza politica che, seppure momentaneamente battuta, ha dato e continua a dare al Paese, quindi non possiamo prestarci né farci portatori della parola d'ordine della Costituente. Vogliamo saltare questa tappa e approfondire tra le masse la linea rivoluzionaria già indicata dal partito per giungere alla dittatura del proletariato col fronte unico dal basso, facendo leva sull'acuirsi dei contrasti sociali e sulla radicalizzazione della lotta e non sull'antifascismo borghese o dando credito alle fratture fra classi dominanti e fascismo. Non vedevamo, insomma, come da tutto questo coacervo di fermenti, di opposizioni, di speranze deluse della borghesia e degli intellettuali borghesi potesse scaturire qualcosa.